bienvenue sur Vocation Entrepreneur, le podcast dédié à la psychologie des femmes entrepreneurs. Je suis Ayette, votre hôte, et j'aide les femmes à comprendre les mécanismes de leur psychologie quand elles décident de lancer un business ou lorsqu'elles sont déjà entrepreneurs. Je vous aide à prendre conscience des schémas mentaux dans lesquels vous êtes, à dépasser ces blocages et à passer à l'action maintenant. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu grandeur nature. Alors, vous êtes prête à jouer? C'est le moment de vous abonner à ma chaîne podcast pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Vous souhaitez un thé ou un café? Installez-vous confortablement pour enfin découvrir les secrets de votre mental. Bienvenue dans ce troisième épisode solo de Vocation Entrepreneur, un épisode qui va parler d'un sujet ô combien important pour les entrepreneurs, le networking, le réseautage ou plutôt l'état d'esprit de la personne qui veut réseauter. Parce que oui, réseauter ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et j'ai choisi ce thème dans les premiers épisodes de mon podcast parce que j'estime qu'il est bon de commencer très tôt à mettre en place une stratégie de réseau. Le networking, quand il est bien fait, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un peu comme on cultive un jardin. Il faut de la patience parce que réseauter, ça implique beaucoup d'analyse comportementale, de prendre des décisions de manière posée et de favoriser les conditions qui vont créer des opportunités à saisir au bon moment. Si je dois le comparer à un jeu, c'est comme un jeu d'échecs. Mais avant d'aller plus loin, on va poser les avantages d'avoir un réseau quand on est entrepreneur. Vous souhaitez lancer votre business ou le développer et là se pose un problème de taille. Vous ne savez pas à qui vous adresser. Ok, Google et les réseaux sociaux sont là pour vous faciliter vos recherches de partenaires, prestataires, mais tout le monde sait que le référencement naturel avec des avis clients fiables, ça devient une denrée rare et il n'y a rien de mieux que les recommandations que peuvent vous faire les personnes en qui vous avez entièrement confiance. Seulement voilà. Vous débarquez dans un milieu où vous ne connaissez peut-être personne. Sur les réseaux sociaux, vous essayez de vous fier au nombre de followers comme un indice de confiance et devant le flot de comptes professionnels, c'est difficile de faire un choix. La solution, il n'y en a pas 15 000, vous devez intégrer ou créer votre réseau. Et là, je vois venir la réaction de deux clans, les extravertis et les introvertis. Vous vous souvenez quand la prof de français annonçait que la classe allait préparer une pièce de théâtre pour la fête de fin d'année? C'est le même type de réaction en chaîne quand vous vous confrontez à la création d'un réseau. Les extravertis sont super contents parce que aller à la rencontre du monde, c'est pour eux finger in the nose. Le contact avec les nouvelles personnes ne leur fait pas peur et c'est vrai que les extravertis ont le contact plus facile. Mais attention! Avoir le contact facile ne veut pas dire savoir créer un réseau de qualité basé sur la confiance et la fiabilité. J'y reviendrai plus tard. À côté de cela, les introvertis sont mal à l'aise dès qu'il s'agit d'aller vers des personnes inconnues. Elles se sentent un peu en danger et défavorisées par rapport aux extravertis. Mais rassurez-vous, il existe plusieurs façons de réseauter et les introvertis ont toute leur place dans la connexion humaine. Bien évidemment, j'ai volontairement créé deux profils extrêmes, mais vous pouvez aussi être un peu des deux et l'essentiel c'est de piocher dans la boîte à outils que je vais vous proposer pour vous créer un état d'esprit sur mesure. Dans cet épisode, je ne parle pas de l'art de réseauter dans les événements networking. Dans ces événements-là, il y a des codes précis à respecter, comme la préparation d'un pitch impactant, une posture, etc. Donc là, je me concentre uniquement sur le réseautage non événementiel, le réseautage que vous faites au quotidien dans votre routine entrepreneuriale. Pour réseauter efficacement, vous devez identifier les éventuelles pensées limitantes et blocages qui vous empêchent de passer à l'acte ou d'avoir des résultats probants. Avant de devenir la pro du réseautage, vous devez identifier les blocages ou les pensées limitantes qui vous freinent dans la création et l'extension de votre réseau. Une des premières pensées, c'est de considérer le réseautage comme du piston. Le piston n'a rien à voir avec le réseau. Être pistonné par quelqu'un, c'est le fait que votre candidature soit clairement appuyée par quelqu'un dans le but d'obtenir un avantage immédiat du seul fait que vous connaissiez personnellement ce connecteur. Le réseau, ça peut devenir une éventuelle source de piston, mais c'est surtout une mise en connexion. Ce n'est pas parce que vous connaissez une personne que vous ferez forcément affaire avec elle. Dans le réseau, vous avez l'avantage de pouvoir accéder à la personne convoitée. À vous de défendre vos arguments pour qu'on accepte de travailler avec vous. C'est vrai qu'en Europe, vouloir intégrer un réseau, ça peut faire opportuniste, alors que dans les pays anglo-saxons, il n'y a aucun problème. En France, par exemple, on a un problème avec les privilèges, et ça vient de l'histoire de France, et du fait que l'abolition des privilèges fait partie des principes fondamentaux de la mentalité française. Alors, on valorise la méritocratie comme si tout était uniquement une question de mérite, alors qu'en réalité, à toutes les échelles sociales et dans tous les domaines, le réseau est déterminant dans la vie professionnelle d'une personne. Et je dirais, pourquoi s'en priver? Pourquoi faire gentiment la queue comme tout le monde alors que le business, c'est essentiellement une question d'opportunité? Qu'en pensez-vous sincèrement? La deuxième pensée limitante, c'est le fait de croire que vous n'avez pas la légitimité d'entrer dans le réseau d'une personne parce qu'elle est, selon vous, inatteignable. Si vous avez vraiment l'intention d'intégrer ce réseau, il va falloir être patient. La stratégie en matière de réseautage, c'est de définir une chaîne humaine de réseau pour pouvoir accéder à la personne convoitée via les personnes que vous connaissez déjà. Et le meilleur moyen, c'est la recommandation. Le réseautage, c'est comme du jardinage. On sème des graines et on espère des résultats. Et parfois, on obtient des résultats inattendus. Et c'est ce qui est vraiment passionnant dans ce domaine. Vous connaissez une première base de personnes, disons des entrepreneurs. Et à travers les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, parce que c'est le réseau social du réseautage par excellence, vous pouvez voir qui connaît la personne convoitée et il se pourrait bien que vous la connaissiez vous-même ou que vous soyez à une ou deux personnes dans la chaîne humaine de la personne finale. Par exemple, si je veux entrer en contact avec le président de la République, je dois essayer d'entrer en contact avec une personne qui connaît intimement une personne proche du président. Et avec Internet aujourd'hui, c'est assez facile de déterminer une chaîne de connexion. Alors après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain. Si vous gardez constamment à l'esprit votre objectif, vous allez inconsciemment créer les conditions pour multiplier les connexions. Et un jour, bim, ça va se faire. On oublie souvent que les personnes connues sont des personnes lambda. D'accord, elles sont très sollicitées, mais elles ont un cœur, des émotions et des problèmes comme tout le monde. Ce que je fais personnellement pour m'adresser à une personne connue, c'est de faire abstraction de sa notoriété pour essayer de la comprendre personnellement. Quels sont ses besoins du moment et comment je peux y répondre? Il y a forcément une opportunité d'attirer l'attention. Le tout est de voir ça comme un jeu de chasse. Et quand je gagne, ça me donne encore plus confiance en moi pour aller chercher des personnes apparemment célèbres. Le troisième blocage, c'est que si vous êtes de nature introvertie, vous pensez que vous n'arriverez pas à créer un réseau. Certaines personnes ont du mal avec les relations superficielles. Par contre, elles excellent dans les relations dites profondes. Elles n'aiment pas la foule et préfèrent les comités restreints. Les réseaux ne sont pas réservés aux extravertis. Chaque personnalité trouvera des interlocuteurs avec qui ça va matcher. Et en matière de réseau, je préfère miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. L'email, par exemple, est une excellente façon d'aborder les gens, surtout si vous avez de la valeur ajoutée à apporter. Les mails sont plus propices à un échange profond, plus intime, et la connexion émotionnelle est plus puissante que sur les réseaux sociaux qui donnent cette impression un peu frivole et éphémère. Le quatrième blocage, c'est la peur de devoir céder à la pression d'un groupe et de perdre votre individualité dans votre réseau. C'est vrai que plus vous allez rencontrer du monde, plus vos propres croyances et façons de faire vont être mises à l'épreuve par la comparaison. Certaines personnes ont l'impression de perdre leur individualité dans la foule, alors elles se replient sur elles-mêmes par sécurité. Si vous êtes dans ce cas, allez vers les personnes qui vous parlent et avec qui vous vous sentez en sécurité et progressivement, vous élargirez votre zone de confort en allant vers des personnes de plus en plus différentes de vous. Il y a encore d'autres blocages, mais j'ai choisi de m'arrêter à ces quatre-là pour me concentrer sur les 6 conseils qui vous permettront de créer un réseau gagnant-gagnant selon votre profil. Alors, comment réseauter selon votre profil? Le premier conseil, c'est de développer votre écoute de l'autre, l'écoute active. L'écoute active, c'est celle qui va vous donner des informations précieuses sur la personne que vous avez en face de vous. Ça peut être de l'écoute active ou de la lecture attentive. Quand j'ai besoin de profiler quelqu'un, je vais voir ce qui existe sur la personne en question. Blog, chaîne YouTube, Instagram, LinkedIn, tous ces comptes peuvent donner des informations sur la personnalité que vous souhaitez aborder. C'est pareil quand j'interviewe mes invités, je n'envoie jamais un mail bateau copié-collé à toutes les personnes intéressantes que j'ai repérées. Quand je veux entrer en contact avec une personne, je prépare le terrain, je vais me renseigner sur elle et je vais essayer de l'accrocher sur un thème qui lui parle. Sur une question qui est sa spécialité, mais au-delà de sa spécialité, parce que bon, les personnes spécialisées dans un domaine ont l'habitude d'être sollicitées pour leur spécialité. Alors je choisis un angle émotionnel sur lequel je suis sûre que la personne va répondre. Et c'est l'accroche qui est la plus importante, pas tellement la facilité de contact comme on peut le croire. Ce qui nous amène à notre deuxième conseil, penser en stratégie gagnant-gagnant. On est là pour faire du business, pas pour copiner. Même si ça peut arriver qu'on copine, faut pas s'attendre à ce que ça soit hyper chaleureux comme avec des amis dès le départ. Il faut donc aller à l'essentiel, apporter tout de suite les avantages de travailler avec vous, ce que vous allez apporter à votre interlocuteur sans lui faire perdre son temps. Si c'est quelqu'un de très sollicité, il est préférable de passer par une personne qu'elle connaît et qui va vous recommander. Ça enlèvera le premier filtre de contact et la personne aura déjà entendu parler de vous. Et c'est là qu'il faudra l'accrocher. Soyez vous-même, cultivez votre originalité et faites l'inventaire de tout ce que vous pourrez apporter à la personne et montrez-lui que vous la connaissez bien. Vous avez lu ses livres, regardé ses vidéos, vous la suivez depuis des années. Si vous êtes débutante, ne le cachez pas. Et mettez l'accent sur le fait que tout le monde débute un jour. Et surtout, faites le lien entre ce que vous allez apporter et ce que la personne vous apportera. Cela permettra une mise en avant rapide de la relation gagnant-gagnant. Le troisième conseil, c'est de faire attention à l'ego. Ce que je conseille souvent, c'est de limiter l'implication émotionnelle dans les relations business. On peut tomber sur des gens avec qui ça matche tout de suite, mais là vous allez vers des gens inconnus. Donc si on refuse une mise en relation, ne le prenez pas pour vous. C'est que la personne ne voit pas encore votre potentiel ou l'intérêt de travailler avec vous et c'est normal. Une fois que vous aurez fait vos preuves, vous serez demandé partout. Ce qu'il faut accepter, à mon sens, c'est qu'on ne vous apporte pas de crédit tout de suite. Et est-ce que vous, vous accordez votre confiance à tous les inconnus qui vous abordent? Certaines personnes ont besoin de mieux vous connaître et certaines personnes n'agissent que par intérêt. Ça aussi, il faut l'accepter. À vous de vous positionner selon vos valeurs. Personnellement, je ne refuse pas de travailler avec une personne qui agit par intérêt parce qu'on est dans un rapport gagnant-gagnant. Mais ne vous forcez jamais à faire quelque chose que vous ne sentez pas. Le quatrième conseil, c'est de penser stratégie. N'ayez pas honte d'être un fin stratège. Bien sûr, ça n'exclut pas de rester soi-même avec toute son authenticité. Mais par exemple, vous pouvez acheter les formations ou les produits pas seulement en fonction de la qualité, mais aussi en fonction du réseau du formateur. Vous ferez d'une pierre deux coups. Quand vous devenez la cliente d'une personne influente dans votre domaine, vous multipliez les chances d'intégrer un réseau qui va vous aider à propulser votre business. Le réseautage est un mode de vie. En étant en connexion permanente avec les gens, vous préparez le terrain pour les futures collaborations. C'est pour ça que si vous avez eu une approche originale, on se souviendra de vous. Le cinquième conseil, c'est de vous fixer l'objectif de devenir incontournable. Vous allez être perçu comme une personne à forte valeur ajoutée parce qu'on va avoir besoin de vous pour connecter d'autres prétendants à votre réseau. C'est pour ça que dans un premier temps, vous allez créer un réseau pour vous, mais dès que vous en avez l'occasion, essayez de créer une connexion entre votre réseau et une personne extérieure. Et plus vous multiplierez les connexions, plus on vous percevra comme une personne connectée. Si vous êtes une personne proactive dans le réseau, on vous en sera reconnaissante et un certain degré de loyauté vous sera redevable. C'est humain et naturel. Quand une personne aide quelqu'un, on a envie de l'aider en retour. Vous créez des émotions positives chez les gens, alors avant de demander, prenez l'habitude de donner, de distribuer, sans mettre en dette personne. et la magie du réseau va finir par opérer. Vous récolterez les fruits de votre travail, c'est une certitude. Enfin, le sixième conseil, c'est de considérer que toutes les personnes sont bonnes à prendre dans votre réseau. Ne cantonnez pas votre réseau à votre domaine de spécialité. Si réseauter est un art de vivre, toutes les personnes que vous rencontrerez sur votre chemin peuvent devenir un élément déterminant plus tard dans votre vie pro ou perso. L'important, c'est qu'on se souvienne de vous comme d'une personne fiable et intéressante. Voilà pour mes conseils du jour qui vous permettront de construire un réseau gagnant-gagnant à votre image. J'espère que cet épisode vous aura boosté pour aller vers les autres. N'hésitez pas à me faire vos retours par mail. J'aimerais créer une rubrique interactive dans laquelle je lirai vos commentaires et questions et j'y répondrai dans l'épisode suivant. Vous souhaitez vous sentir légitime à entreprendre? Allez vite écouter mon épisode 1 sur le syndrome de l'imposteur. À la fin de cet épisode, vous pourrez vous inscrire à ma série d'épisodes privés pour aller encore plus loin sur le sujet. Vous aimez mon contenu? La meilleure façon de me soutenir, c'est une note et un commentaire sympa sur Apple Podcasts. Votre bulle introspective est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vocation Entrepreneur. N'oubliez pas, prenez soin de votre mental.